Nous avons parlé fréquemment de la question de notre volonté en relation avec les choses de Dieu. Les chrétiens, même les plus âgés, ne réalisent pas la part importante que joue dans leur vie la puissance de la volonté. C'était l'un des tourments de Paul dans Romains 7. Sa volonté était bonne, mais toutes ses actions la contredisaient et toutes les résolutions qu'il prenait et les intentions qu'il avait de plaire à Dieu ne faisaient que l'amener dans une obscurité plus profonde. Je voudrais faire le bien, mais je suis charnel, vendu au péché. C'est là le point sensible. Semblable à une voiture sans essence qu'il faut pousser et qui s'arrête dès qu'elle est laissée à elle-même, beaucoup de chrétiens persistent à avancer par la force de leur volonté et trouvent que rien n'est plus épuisant ou plus âpre que la vie chrétienne. D'autres se forcent à dire « Alléluia » parce que certains le disent, tout en avouant que cela n'a aucun sens pour eux. Ils veulent se forcer à être ce qu'ils ne sont pas. Et cela est plus pénible que de vouloir faire remonter de l'eau sur une pente. Car après tout, le point extrême que peut atteindre la volonté est celui d'une bonne disposition. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. S'il nous faut exercer tant d'efforts dans notre vie chrétienne, cela signifie simplement que nous ne sommes pas naturellement chrétiens. Nous n'avons aucun effort à faire pour parler notre langue maternelle. En fait, ce n'est que pour les choses que nous ne faisons pas naturellement qu'il nous faut avoir recours à notre volonté. Nous pouvons y réussir pendant un certain temps, mais la loi du péché et de la mort aura finalement le dessus. Nous pouvons dire « J'ai la volonté et je ferai ce qui est bien durant 2 semaines », mais il nous faudra bientôt confesser « Je ne sais pas comment l'accomplir ». Non, ce que je suis déjà, je n'ai pas besoin de chercher à l'être. Si je désire l'être, c'est parce que je ne le suis pas encore. Nous demanderons comment les hommes emploient-ils leur force de volonté pour essayer de plaire à Dieu. Il peut y avoir 2 raisons à cela. Ou bien ils peuvent n'avoir jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance et n'ont pas dans ce cas la vie nouvelle agissant en eux. Ou bien, s'ils sont nés nouveau et qu'ils possèdent cette vie, ils n'ont pas appris à se confier en cette vie. C'est ce manque de compréhension qui les amène toujours à l'échec et au péché habituel, de sorte qu'ils commencent à douter de la possibilité d'une vie meilleure. Mais si nous avons manqué de foi, cela ne veut pas dire que la faible vie que nous expérimentons quelquefois représente tout ce que Dieu nous a donné. Romains 6, 23 déclare que le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Romains 8, 2 nous apprend que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est venue à notre secours. Ainsi, Romains 8, 2 ne nous parle pas d'un don nouveau, mais de la vie déjà présentée en Romains 6, 23. En d'autres termes, il s'agit d'une révélation nouvelle de ce que nous possédons déjà. Je crois que je ne puis trop souligner cette vérité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous devons attendre de la main de Dieu, mais c'est une nouvelle découverte de l'œuvre déjà accomplie en Christ. Car le verbe « m'a affranchi » est au passé. Si je vois réellement cela et que je mets ma foi en lui, il n'est pas indispensable que je fasse l'expérience de Romains 7 et certainement pas dans ce déploiement épuisant de volonté. Si nous abandonnons notre propre volonté et que nous nous confions en lui, nous ne tomberons pas et nous ne serons pas écrasés, mais nous serons soumis à une loi différente, la loi de l'esprit de vie. Car Dieu nous a donné non seulement la vie, mais une loi de vie. Et de même que la loi de l'apesanteur est une loi naturelle et non le produit de la législation humaine, ainsi la loi de vie est une loi naturelle, semblable à la loi qui règle les battements de notre cœur ou qui contrôle les mouvements de nos paupières. Nous n'avons pas besoin de penser à nos yeux ni de décider de la fréquence de leur clignotement pour les maintenir propres, et bien moins encore de faire intervenir notre volonté dans le fonctionnement de notre cœur. Nous ne ferions que créer des complications. Non, tant que la vie est là, elle agit spontanément. Notre volonté ne peut qu'entraver la loi de vie. Ne devons-nous pas lire la Bible? Évidemment, il nous faut la lire, sinon notre vie spirituelle s'en ressentira. Cela ne signifie pas que nous devons nous forcer à la lire. Il y a en nous une nouvelle loi qui nous donne faim de la parole. Alors une demi-heure nous sera plus profitable que 5 heures de lecture forcée. Il en est de même pour la libéralité, pour la prédication et pour le témoignage. Si nous laissons vivre en nous la nouvelle loi, nous serons moins conscients de l'ancienne. Elle existe encore, mais elle ne domine plus et nous ne sommes plus sous son emprise. Le Seigneur dit en Matthieu 6, « Regardez les oiseaux, laissez-vous instruire par les lys. » S'il était possible de demander aux oiseaux s'ils ne craignent pas la loi de la pesanteur, que nous répondrait-il ? Il dirait simplement, « Nous n'avons jamais entendu citer le nom de Newton. Nous ne connaissons pas sa loi. Nous volons parce que c'est la loi de notre vie de voler. » Non seulement il y a en eux une vie qui a le pouvoir de voler, mais la loi de cette vie rend ces créatures vivantes capables de triompher spontanément de la loi de la pesanteur. La pesanteur n'en existe pas moins. Si vous vous levez de bonne heure un matin où le froid est intense et la neige épaisse sur le sol, et si vous trouvez un oiseau mort dans la cour, vous vous souviendrez aussitôt de la permanence de cette loi. Mais tant que les oiseaux vivent, ils en triomphent, et cette loi est ce qui domine dans leur existence. Dieu a réellement été bon pour nous. Il nous a donné la nouvelle loi de l'esprit, et voler, pour nous, n'est plus une question de notre propre volonté, mais de sa vie. Avez-vous remarqué quelle épreuve ce serait de vouloir rendre patient un chrétien impatient ? Il suffirait de lui demander un peu de patience pour le rendre malade de dépression. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de nous forcer à être ce que nous ne sommes pas naturellement, ni de tendre à force de réflexion à accroître notre stature spirituelle. Les soucis peuvent nuire à notre niveau spirituel, mais ils n'y ajouteront jamais rien. Ne soyez pas en souci, nous dit notre Seigneur. Laissez-vous instruire par les lys, ils croissent. Il attire notre attention sur la nouvelle vie qui est en nous. Puissions-nous apprécier tout à nouveau cette vie qui est nôtre. Quelle merveilleuse découverte! Elle peut faire de nous des hommes entièrement nouveaux, car elle agit dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Elle nous arrête lorsque, par exemple, nous avançons la main pour regarder un livre dans la chambre d'une personne et nous rappelle que nous n'avons pas le droit de le faire, puisque nous n'avons pas demandé la permission. Nous ne pouvons pas, nous dit le Saint-Esprit, toucher aux droits des autres. Prenons l'exemple du bavardage. Êtes-vous une personne qui parle trop? Est-ce que quand vous vous trouvez en société, vous vous dites « Que vais-je faire ? Je suis un chrétien, mais si je veux glorifier le nom du Seigneur, je dois tout simplement parler beaucoup moins. J'aurai donc aujourd'hui bien soin de me contrôler à cet égard. » Durant une heure ou deux, vous réussirez jusqu'à ce que, sous un prétexte ou un autre, vous perdiez tout contrôle et qu'avant de savoir où vous êtes, vous vous trouviez une fois de plus en difficulté à cause de votre langue. Oui, soyons bien certains que notre volonté nous est ici inutile. Si je vous exhortais à exercer votre volonté à cet égard, ce serait pour offrir la vaine religion du monde et non la vie en Christ. Car, remarquons-le encore, une personne bavarde reste ce qu'elle est alors même qu'elle arrivera à se tenir tranquille toute une journée. Car une loi naturelle la gouverne et la pousse à parler. Un pommier, qu'il porte des pommes ou non, est toujours un pommier. Mais devenus chrétiens, nous découvrons en nous une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie, qui triomphe de toutes les autres choses et qui nous a déjà délivrés de la loi de notre bavardage. Si nous croyons à la parole de Dieu et que nous obéissons à la nouvelle loi, elle nous dira quand nous devons nous arrêter ou ne pas commencer, et elle nous donnera le pouvoir de le faire. Sur cette base-là, vous pourrez aller chez votre ami et y rester 2 ou 3 heures, ou même 2 ou 3 journées, sans avoir aucune difficulté. À votre retour, vous pourrez remercier Dieu pour sa nouvelle loi de vie. C'est cette vie spontanée qui est la vie chrétienne. Elle se manifeste en amour pour ceux qui ne sont pas aimables, pour le frère que vous n'aimeriez pas naturellement et que vous ne pouvez certainement pas aimer. Car cette loi agit sur la base des possibilités que le Seigneur discerne dans ce frère. Seigneur, tu vois qu'il peut être aimé et tu l'aimes. Aime-le maintenant à travers moi. Et cette loi produit une vraie vie, un caractère moral sincère et véritable. Il y a trop d'hypocrisie dans la vie des chrétiens, trop d'apparence. Rien n'enlève autant au témoignage chrétien son efficacité que d'essayer pour les enfants de Dieu de paraître ce qu'ils ne sont pas réellement. Car l'homme de la rue finit par découvrir ce déguisement et il sait nous apprécier pour ce que nous sommes. Oui, la simulation fait place à la réalité lorsque nous confions à la loi de vie. Car ce qui était impossible à la loi, attendu que la chair la rendait impuissante, Dieu l'a fait. En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à notre chair de péché, il a condamné le péché dans la chair afin que la justice prescrite par la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, versets 3 et 4. Celui qui prend soin de lire attentivement ces deux versets verra que deux choses y sont présentées. Il est dit premièrement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous et deuxièmement ce que l'Esprit veut faire en nous. La chair étant faible, nous ne pouvons pas, selon la chair, accomplir la justice de la loi. Souvenons-nous qu'il ne s'agit pas ici de notre salut, mais de cette question de plaire à Dieu. Et c'est à cause de notre incapacité que Dieu a fait deux choses. Il est premièrement intervenu au cœur de notre problème. Il a envoyé son Fils dans la chair, son Fils qui est mort pour le péché, et par là, il a condamné le péché dans la chair. Cela signifie qu'il a mis à mort en sa personne tout ce qui en nous appartenait à la vieille création, que nous l'appelions notre vieil homme, ou la chair, ou le moi. Dieu a ainsi frappé à la racine même du mal en supprimant la base de notre faiblesse. Ce fut la première intervention divine. Cependant, la justice prescrite par la loi devait être encore accomplie en nous. Comment cela pouvait-il se faire? Il fallait cette deuxième intervention de Dieu, le Saint-Esprit venant demeurer en nous. C'est lui qui est envoyé pour se charger de l'aspect intérieur de ce problème. Et il peut le faire, nous est-il dit, si nous marchons selon l'Esprit. Que signifie marcher selon l'Esprit? Cela signifie deux choses. Tout d'abord, ce n'est pas une œuvre, c'est une marche. Les efforts désespérés et stériles que je m'imposais lorsque je cherchais dans la chair à plaire à Dieu ont fait place au repos et à la joie dans la dépendance de la force du Christ qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29. C'est pourquoi Paul met en contraste les œuvres de la chair avec le fruit de l'Esprit. Ensuite, marcher selon implique la soumission. Marcher selon la chair signifie que je cède aux exigences de la chair et les versets qui suivent, Romains 8, 5 et 8, montrent clairement où cela me conduit. Cela peut que me mettre en conflit avec Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est être soumis à l'Esprit. Il y a une chose qui est impossible à l'homme qui marche selon l'Esprit, c'est d'être indépendant de lui. Il faut que je sois soumis au Saint-Esprit. C'est lui qui doit avoir l'initiative de mes actes. Ce n'est que dans la mesure où je suis abandonné à lui pour lui obéir que je verrai la loi de l'Esprit de vie agir librement et la justice prescrite par la loi, tout ce que je m'étais efforcé de faire pour plaire à Dieu, s'accomplir non plus par moi, mais en moi. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Nous connaissons tous les paroles de la bénédiction que nous avons en 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'amour de Dieu est la source de toute bénédiction spirituelle. La grâce du Seigneur Jésus a mis cette richesse spirituelle à notre portée et la communion du Saint-Esprit est le moyen par lequel elle nous est donnée. La communion du Saint-Esprit est le moyen par lequel elle nous est donnée. L'amour est quelque chose de caché dans le cœur de Dieu. La grâce est cet amour exprimé et offert dans le Fils. La communion est le don de cette grâce par l'Esprit. Ce que le Père a conçu à notre égard, le Fils l'a accompli pour nous, et maintenant le Saint-Esprit nous le communique. Ainsi, quand nous découvrons quelque chose de ce que le Seigneur Jésus nous a acquis par sa croix, regardons, pour nous l'approprier, dans la direction que Dieu nous a indiquée, et par notre ferme attitude de soumission et d'obéissance au Saint-Esprit, gardons notre cœur largement ouvert, afin qu'il puisse nous le donner. C'est là le ministère du Saint-Esprit. Il est venu dans ce but, réaliser en nous ce qui est à nous en Christ. Pour conclure, voici le témoignage d'un missionnaire. Nous avons appris combien il est nécessaire, lorsqu'on veut amener une âme à Christ, d'être clair et d'aller bien au fond des choses, car il n'est pas certain qu'elle puisse encore avoir l'aide d'autres chrétiens. Nous cherchons toujours à bien faire comprendre à un nouveau croyant que lorsqu'il a demandé au Seigneur de lui pardonner ses péchés et d'entrer dans sa vie, son cœur est devenu l'habitation d'une personne vivante. L'Esprit Saint de Dieu est désormais en lui pour lui ouvrir les Écritures afin qu'il y trouve Jésus-Christ pour guider sa prière, pour gouverner sa vie et pour reproduire en lui le caractère de son Seigneur. J'étais allé vers la fin de l'été dans une station de montagne pour une période prolongée de repos. Il m'avait été difficile de trouver une pension et j'avais été obligé de dormir dans une maison et de prendre mes repas dans une autre. Celle-ci était le foyer d'un ouvrier et de sa femme. Durant les 2 premières semaines de mon séjour, je demandais la bénédiction du Seigneur à chaque repas, mais je ne parlais pas de l'Évangile à mes hôtes. Un jour, enfin, j'eus l'occasion de leur parler du Seigneur Jésus. Ils étaient disposés à écouter et vinrent à lui avec une foi simple pour recevoir le pardon de leurs péchés. Ils firent l'expérience de la nouvelle naissance et une lumière et une joie nouvelles entrèrent dans leur vie car leur conversion était bien réelle. Je pris soin de leur montrer clairement ce qui leur était arrivé. Puis, le temps étant devenu plus froid, je dus les quitter. Durant les mois froids d'hiver, l'homme avait eu l'habitude de prendre du vin à ses repas, et il était enclin à le faire avec excès. Après mon départ, lorsque revint le temps froid, le vin apparut de nouveau sur la table. Ce jour-là, comme il s'était maintenant accoutumé à le faire, le mari courba la tête pour rendre grâce pour le repas. Mais les paroles ne lui vinrent pas. Après une ou deux tentatives vaines, il se tourna vers sa femme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda-t-il. « Pourquoi ne pouvons-nous pas prier aujourd'hui ?»« Prends la Bible et cherchons ce qu'elle nous dit au sujet de la boisson. » Je leur avais laissé un exemplaire des Saintes Écritures, mais bien que la femme sût lire, elle était encore ignorante de la parole et elle tourna les pages sans trouver la lumière à ce sujet. Il ne savait pas comment consulter le livre de Dieu et il était impossible de chercher conseil auprès du serviteur de Dieu, car j'étais bien loin d'eux, à des kilomètres. Il pouvait se passer des mois avant que nous nous rencontrions à nouveau. « Prends simplement ton vin, » dit sa femme. « Nous parlerons de cette question aux frères missionnaires à la prochaine occasion. » Cependant, le mari reconnut qu'il ne pouvait simplement pas rendre grâce au Seigneur pour ce vin. « Emporte-le, » dit-il. Et lorsque cela fut fait, ils demandèrent ensemble la bénédiction sur leur repas. Lorsque plus tard, l'homme put venir me voir, il me raconta leur expérience. Il se servit d'une expression familière et me dit « Frère, mon patron intérieur ne m'a pas permis de boire. Très bien, lui dis-je, obéis toujours au patron intérieur. La plupart d'entre nous, nous savons que Christ est notre vie. Nous croyons que l'Esprit de Dieu réside en nous, mais cela a peu d'effet sur notre comportement. La question importante est donc celle-ci. Le connaissons-nous comme une personne vivante et le connaissons-nous comme notre patron? Je vous laisse avec cette citation de 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit.